Radio Pierre-Bro.
Et sa pulpe.
I'd like to be under the sea.
Bonjour à tous et bienvenue dans Abyss, votre programme sur les grands fonds. Après avoir défini ce qu'étaient les abysses, puis retracé l'histoire de leur découverte, aujourd'hui nous allons évoquer leur exploration avec Delphine Pierre, hydrographe à l'Ifremer. Installez-vous confortablement à bord de votre bathyscaphe, c'est parti! Bonjour Delphine, vous êtes hydrographe à l'Ifremer. Et aujourd'hui nous allons vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer à quoi consiste votre métier en quelques mots?
Bonjour Timéo. Moi, mon métier, donc hydrographe, les hydrographes, ce sont des cartographes de milieux aquatiques comme les fleuves, les lacs, mais aussi et particulièrement en ce qui me concerne, les océans. Au quotidien, je travaille dans un bureau à Plouzanet. C'est une ville à côté de Brest et je suis derrière un ordinateur, mais je voyage avec les cartes que je fabrique, on va dire, avec les logiciels sur l'ordinateur. Mais il m'arrive également de participer à des campagnes océanographiques sur toutes les mers du globe.
Et du coup, est-ce que ça prend beaucoup de temps de préparer une exploration?
Alors une exploration, ça se prépare à plusieurs. Il y a d'abord un scientifique, un chercheur qui a une idée scientifique et qui doit monter une mission, une campagne à la mer. Mais pour ça, il y a plusieurs personnes qui vont embarquer avec lui. Il peut y avoir jusqu'à 40 scientifiques à bord d'un navire. Il y a des chimistes, par exemple, des biologistes, des géologues, et il y a aussi des spécialistes des robots qui vont sous l'eau, et etc. Donc souvent, le chercheur, il supervise l'organisation de l'exploration, et puis il ou elle fait appel à ses spécialistes en fonction de ses besoins. Ensuite, les personnes qui gèrent les navires sur lesquels on embarque, pour nous, à l'Ifremer, c'est Génavire, la société qui fait ça, ils voient si tout est réalisable techniquement. Et puis après, la mission, elle est programmée en fonction de la disponibilité du bateau qui est le plus adapté aux besoins de la campagne. Alors le bateau, après, il va sur la zone de travail. Et puis nous, les scientifiques, on termine par chercher, donc trouver le moyen pour les scientifiques de rejoindre le plus rapidement possible le navire sur zone. Parce que nous, en fait, on voyage pas. On fait pas le transit vers la zone de travail dans le bateau. Il y a que les marins qui font ça. Et on les rejoint sur place. Et en fait, au final, ça prend souvent plusieurs années entre la première idée de la campagne et puis le moment où on arrive à bord pour travailler et concrétiser tout ça. Et encore après, les scientifiques travaillent sur les données pendant plusieurs années, encore après la campagne.
Mais pourquoi explore-t-on les abysses?
Alors, les abysses ou les grands fonds, ils sont très très peu connus. On dit qu'on connaît moins bien la surface des océans, enfin le fond des océans de notre planète que celle de la Lune. Au début, les grands fonds, ils ont été explorés pour voir ce qu'il y avait, s'il y avait de la vie au fond ou tout ça. Et puis, quelle était la morphologie des fonds. Et puis, ensuite, il y a eu aussi des besoins pour pouvoir extraire des matières du fond. Par exemple, le pétrole, ça a été extrait de plus en plus profond. Donc, il a fallu explorer le grand fond. Et aujourd'hui, c'est important de continuer à comprendre comment fonctionnent les grands fonds pour mieux les protéger.
Mais comment explore-t-on les abysses?
Alors, pour les explorer, il faut d'abord se rendre sur place. Pour ça, donc en France, il existe un groupement de navires océanographiques qui s'appelle la flotte océanographique française. Elle est composée de bateaux qui sont dits côtiers, donc c'est les bateaux qui explorent les petits fonds près de la côte, et des navires qui sont dits hauturiers et qui nous permettent d'aller sur tous les océans et partout finalement. Les plus grands, ils mesurent plus de 100 mètres de long. Les scientifiques y embarquent, les marins les conduisent et mettent en œuvre les outils nécessaires. Et la cartographie, c'est le premier moyen, en fait, qui est un moyen indirect pour essayer de comprendre la morphologie des fonds. Ça se fait avec des équipements acoustiques qui sont appelés des sondeurs multifaisceaux. Leur principe de fonctionnement, c'est de l'acoustique. C'est un peu pareil que quand on va, par exemple, à la montagne et qu'on crie. Donc, le son est réfléchi sur les parois des montagnes et il nous revient aux oreilles. Ben là, le sondeur, il envoie une onde acoustique, un son, et ça se réfléchit sur le fond de la mer et ça revient aux oreilles du sondeur, en fait. Et comme on connaît la vitesse du son dans l'eau, on en déduit la distance que le son a parcourue, et cette distance-là, c'est la profondeur de l'eau. Il y a des sondeurs pour les petits fonds et pour les grands fonds. Ça, c'est la première façon d'explorer les grands fonds.
Avez-vous des engins spéciaux pour les explorer?
Donc les sondeurs multifaisceaux dont je viens de parler sont les premiers moyens pour les explorer. Et après, il y a aussi des équipements qui peuvent permettre d'aller faire des prélèvements ou mesurer la chimie ou observer la vie au fond. À l'Ifremer, il existe aussi un petit sous-marin. Le sous-marin, il s'appelle le Nautil. Il permet de descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur à 3 personnes. Il y a 2 pilotes et un scientifique. Et donc ça permet aux scientifiques d'explorer directement les fonds avec des spots de lumière qui éclairent bien le fond. Mais il y a aussi des ROV. Les ROV, c'est des robots qui sont reliés par une leste, c'est un grand câble, qui sont reliés au bateau, ils sont téléguidés du bateau. Et là, ça permet de filmer et donc d'observer en temps réel les images du fond. Et là, plusieurs scientifiques, du coup, peuvent observer en même temps, parce que c'est sur des écrans, et il y a plusieurs scientifiques qui peuvent regarder en même temps. Et en plus, comme toutes ces vidéos sont enregistrées, mais c'est la même chose sur le Nautil, après, les scientifiques peuvent re-regarder les films une fois à terre dans leur bureau. Et on a aussi des AUV, ce sont des robots qui sont autonomes. Donc, en fait, on les programme et ils vont tout seuls sur le fond pour cartographier plus finement les grands fonds. Voilà les outils qu'on utilise pour aller explorer les grands fonds.
Jusqu'à quelle profondeur peuvent descendre ces sous-marins?
Alors, le Nautil, comme je disais tout à l'heure, il peut descendre jusqu'à 6000 mètres. Le ROV Victor, il descend également jusqu'à 6000 mètres à l'Ifremer, hein, c'est des engins de l'Ifremer. Les AUV Astérix et Idéfix, qui sont des plus vieux AUV, ils descendent jusqu'à 2500 mètres environ. Et il y a un nouvel AUV qui est en cours de développement, qui s'appelle Ulix, et qui devrait permettre d'atteindre les 6000 mètres. Mais il y a des Américains et des Chinois qui sont déjà descendus à des profondeurs plus importantes que 10 000 mètres, je crois.
Quelles précautions faut-il prendre pour descendre?
Alors, pour descendre, quand les êtres humains en fait descendent si profond, c'est dans des sous-marins. Et faut se rendre compte que c'est un tout petit espace, c'est très restreint, et ils doivent rester dedans pendant au moins 8 heures. Et il faut qu'ils restent concentrés pendant toute cette durée de plongée. Il faut qu'ils notent, qu'ils observent tout, qu'ils s'enregistrent pour bien suivre et partager après tout ce qu'ils voient. Donc, avant de plonger, il est obligatoire de faire une visite médicale spécifique. Les pilotes, eux, ils doivent vérifier les engins, s'assurer que les engins et le navire puissent bien communiquer entre eux. Et puis après, une fois en plongée, les pilotes, ils doivent aussi faire très attention, évidemment, à la sécurité, parce que le moindre accident, ça peut être dramatique quand on est très profond. Par exemple, il faut bien veiller à ce que tout le monde puisse respirer pendant au moins toute la durée de la plongée. Il faut qu'ils regardent à ne pas s'accrocher au fond, parce que s'ils restaient accrochés, ça pourrait vite tourner au drame également. Et puis, il faut aussi veiller à ce que le sous-marin, il dépense le moins d'énergie possible pour avancer, se stabiliser et compagnie. Donc, les engins comme les ROV, par exemple, où il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain dedans, ils sont quand même réputés pour être un peu plus sécurisants, en fait. Mais sinon, voilà les précautions qu'il faut veiller à prendre avant de plonger pour les êtres humains quand ils vont plus profond.
Avec quel outil de mesure étudie-t-on les abysses?
Alors, comme je le disais jusqu'à présent, on mesure beaucoup de différents paramètres, et ça souvent on le fait à partir des navires ou des engins, comme je le disais. Mais sinon, il existe également des observatoires qui ont été installés dans les grands fonds. Ces observatoires, donc c'est comme des stations qui restent au fond des océans pendant très longtemps, et qui pendant tout ce temps-là, ils enregistrent ou ils mesurent plein de paramètres. Donc, par exemple, ils peuvent enregistrer et mesurer des paramètres physiques comme la température, les courants, la pression, des paramètres chimiques comme par exemple l'oxygène ou l'acidité de l'eau, et des paramètres biologiques avec des caméras ou des sonars qui enregistrent des images optiques et acoustiques au fond. On connaît du coup mieux avec ces mesures-là l'activité biologique en termes d'abondance d'espèces et puis le mouvement des animaux également, leur comportement. Mais ces observatoires-là, il y en a que 3, il me semble, sur des zones hydrothermales, dont un au large des Açores, au Portugal, sur le site de la Ride Médio-Atlantique.
Et si j'invite à aller plus loin, qu'est-ce que je peux lire, regarder?
J'imagine qu'il y a beaucoup d'informations sur le site de l'IFREMER, sur Internet, mais il existe aussi des reportages vidéo, je pense, ou bien audio. J'ai regardé rapidement et sur Radio France, il y a des scientifiques, entre autres de l'IFREMER, qui sont interviewés et qui racontent très bien les choses. Et puis je pense qu'il y a aussi des livres qui doivent être jolis avec des belles images. Faut que tu demandes au CDI de ton établissement de t'en offrir un.
J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions et au revoir Delphine. Vous avez compris, il ne suffit pas d'un tuba pour aller dans les abysses ni d'une simple tenue de plongée. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro d'Abysses sur Radio Pierre Bro.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden. In the shade.